BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Nous sommes le mercredi 30 novembre et on est ensemble comme chaque jour pour BFM Patrimoine et vos deux heures quotidiennes d'expertise du monde de votre argent vous accompagnent jusqu'à midi. Et ces deux heures commencent par cette tournée sur les marchés actions grâce à Antoine Larrigauderie qui nous attend chez Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, merci d'être au rendez-vous. Que
Bonjour
se dit-on
Cédric.
Sur les tables de marché?
C'est timide, mais ça avance. Un CAC 40 qui réussit à se maintenir du côté des 6700 points, 6696. On est en hausse de 0,41%. On avait des signaux haussiers un petit peu plus fermes en avant-marché. Mais il faut dire qu'on a des marchés un petit peu plus prudents. C'est vrai qu'on a fait des allers-retours en début de semaine avec les inquiétudes concernant la Chine. Là, c'est maintenant la macroéconomie qui reprend le dessus, retour aux fondamentaux, parce que c'est vrai qu'on a une journée qui ressemble à un véritable déluge de statistiques, aussi bien du côté de la zone euro que du côté des États-Unis. Il va falloir décortiquer tout ça. Croissance, inflation. On aura également des indicateurs avancés du rapport américain sur l'emploi qu'on attend vendredi, qui sera vraiment l'indicateur le plus attendu de la semaine. Là, on aura l'enquête ADP secteur privé cet après-midi. Donc, les marchés sont relativement prudents, mais pas sans un a priori haussier qu'on peut lire en ce moment sur les indices. Donc, plus 0,48% pour le CAC 40, l'Eurostox 50, plus 0,56 et plus 0,57 pour le DAX à Francfort. Alors, à noter ce qui se passe aussi sur les taux et les changes. C'est vrai que du côté des taux, on a eu quand même une nette détente à nouveau hier. Ça remonte de quelques points de base ce matin, mais enfin 1,92 pour la dette allemande 10 ans, 2,39 pour la dette française, alors que l'écart de taux grossit avec les États-Unis. On est toujours à 3,7% du côté de la dette 10 ans américaine. Malgré tout, on a un euro-dollar qui reste relativement stable au-delà d'un 0,3 et même qui se renforce un petit peu ces dernières heures. 1,0375 là en ce moment. Les valeurs qui constitue le paquet de hausse sur le CAC 40 à noter, des valeurs plutôt cycliques, plutôt industrielles. On est revenu sur Renault qui gagne 3,8% à 35,07€. Sur Alstom, plus 2,44 à 25,16. On a un tiers groupé du secteur du luxe avec cette détente obligataire qui se confirme. On a des valeurs de croissance qui sont très entourées. Hermès gagne à 1,8%, 1510,50€. LVMH plus 1,61 à 713,30€. Et puis à noter Kering aussi plus 1,28, 559,70€. À la baisse, on retrouve Sanofi qui perd 2,3% à 86,20. On a ArcelorMittal moins 0,46 à 25,82 ou Pernod Ricard moins 0,37 à 186,25. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Rexel moins 5,9% à 17,48 et la plus forte hausse, elle est pour Elior, toujours aussi volatile et puis toujours avec une vraie belle dynamique haussière. Le titre gagne 3,8% à 2,84. Le CAC 40 donc plus 0,53, ça y est, on a passé à nouveau les 6700 points, 6703 points et l'euro 1,0374, Cédric.
Antoine Larrigauderie depuis le siège d'Euronext chaque matin pour regarder ce qui s'est dit et passé pendant cette première heure de cotation. Tout de suite, c'est l'info éco avec Nathan Concampo.
BFM Business, l'info éco.
Des indicateurs en France. L'inflation se stabilise à 6,2% sur un an en novembre selon l'INSEE. La croissance du PIB est confirmée à plus 0,2% au troisième trimestre. La consommation des ménages, elle, enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021. Elle baisse de 2,8% en octobre. En Chine, l'activité manufacturière poursuit sa chute en novembre pour le deuxième mois consécutif. Une activité toujours lestée par les restrictions anti-Covid. Les marchés s'interrogent, le FMI aussi. Le fonds dit qu'il pourrait devoir réviser à la baisse ses perspectives de croissance pour le pays. Et on apprend que l'ex-président chinois Jiang Zemin est décédé à 96 ans. Il avait dirigé le pays de 1989 au début des années 2000. Emmanuel Macron à Washington. C'est la première visite d'État organisée par Joe Biden. Plusieurs dossiers sensibles en discussion, le gaz que les Américains nous vendent, 4 à 5 fois plus cher que les clients américains, mais surtout l'Inflation Reduction Act, un protectionnisme assumé, fortement critiqué en Europe. En France, le dividende salarié sur la rampe de lancement. La proposition de Pascal Canfin a été validée par le Parti Renaissance. Elle sera maintenant débattue avec les partenaires sociaux et fera l'objet d'un travail parlementaire préparatoire en vue d'une loi. Des propositions concrètes sont attendues début février. Renault et Airbus s'allient dans la batterie électrique du futur. Les deux groupes ont signé un accord de recherche pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et aux futurs avions hybrides. Une technologie qui pourrait permettre des gains de coûts, de poids et une plus grande autonomie. Michelin poursuit sa restructuration. Le groupe a annoncé hier la suppression de 451 postes, essentiellement dans le tertiaire. Un chiffre toutefois revu à la baisse. Ce sont donc au total 1600 départs et non 2300 comme prévu initialement. Enfin, le feu vert du gouvernement pour un encadrement des loyers à Marseille. Une revendication de la municipalité de gauche. Les loyers sont déjà encadrés à Paris, Lille, Montpellier ou encore Bordeaux. Vos rendez-vous du jour sur BFM Business. Antoine Monin, directeur général France de Spotify, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h15. Et Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont, sera l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. C'est ce soir à 19h30.
Merci Nathan, on se retrouve tout à l'heure, 11h, pour suivre cette actualité économique. Et nous, on s'intéresse à vos placements. Et on commence avec Le Monde Action et Pépite et Pipo.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite et Pipo.
Pierrick Bochet est en ligne avec nous depuis InnoCap Gestion. Bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous et vous nous proposez ce matin un éclairage sur TFF, comprenez Tonnellerie François Frères, on est dans le monde du vin.
TFF Group, qui n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos fortes convictions d'investissement, c'est le leader mondial de la fabrication des fûts en chaîne pour le vin et les alcools, tout à fait. ETI française, ETI familiale, qui a réalisé des ventes annuelles de 303 millions d'euros lors de son dernier exercice fiscal, arrêté fin avril 2022. C'est une croissance de 16%. Nous avons régulièrement échangé ensemble sur TFF Group, son leadership mondial et sa très solide structuration. TFF est très international, 85% de ses ventes sont réalisées en dehors de France, plus de 50% de ses facturations sont effectuées en dollars, et TFF a construit un puissant maillage industriel mondial avec des sites de production sur les 5 continents, au plus près de ses clients. Ses importantes parts de marché illustrent sa domination. 30% au niveau mondial dans le vin, 80% sur le segment des whiskies indépendants en Écosse, et environ 20% sur le Bourbon aux États-Unis en à peine plus de 5 ans. Le management visionnaire actuellement aux commandes de l'entreprise, et c'est la quatrième génération, a enclenché les diversifications dans les fûts à whisky et à bourbon. Superbe audace industrielle, réel succès. Ces deux débouchés représentent déjà 50% de la totalité de la production des fûts TFF. 1 500 000 barriques. Il est important de rappeler que nous sommes actionnaires de TFF Group au sein de notre gamme de fonds Quadrige. Alors tous les voyants nous semblent être au vert aujourd'hui pour TFF. Tant sur la dynamique de la croissance de ses ventes que sur les éléments constituant sa rentabilité et au niveau de chacun de ses pôles. La vigueur de la croissance organique du dernier trimestre, plus 49%, atteste de cette solide dynamique. Les tonneaux pour le vin, qui représentent 50% du chiffre d'affaires, bénéficient d'une meilleure récolte un peu partout sur les deux hémisphères et d'un besoin de barriques neuves chez les clients. Après 2 années de déstockage, les stocks de tonneaux sont au plus bas chez les clients. La reprise de la croissance est forte sur toutes les zones géographiques, plus forte qu'initialement anticipée par la société. Les États-Unis, l'Australie, qui représentent 45% des ventes, tirent cette tendance favorable. Et le pricing power est élevé, avec des hausses de prix de vente au-delà de 7%. C'est 2 fois supérieur aux années précédentes. Et cela permet à TFF de retrouver une rentabilité historiquement forte. Sur le whisky, les tonneaux pour le whisky qui représentent 15% du chiffre d'affaires, là, l'inflexion a déjà eu lieu après plusieurs années de stabilisation. Regain des volumes, hausse des prix, c'est favorable à la croissance des profits. Et sur les fûts pour le bourbon, qui est une diversification qui a été enclenchée en 2016, ont été un formidable relais de croissance pour TFF au cours des dernières années. Ça lui apporte une visibilité forte de plus de 2 ans sur le marché américain. La hausse de la demande, les gains de part de marché de TFF sont à l'origine de cette dynamique favorable. Et l'objectif de fabriquer 800 000 fûts annuellement d'ici 2024 est en passe d'être atteint. Alors au global, on a une forte croissance des volumes, on a une hausse des prix de vente. Cela apporte une grande confiance au management pour atteindre son objectif de plus de 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui représente une croissance des ventes d'environ 20% sur l'exercice fiscal en cours. Et après 3 années de surinvestissement, on a une normalisation, et cette normalisation contribue à l'amplification du levier opérationnel, avec une rentabilité qui pourrait retrouver le niveau de 17%, matérialisant une croissance des profits que nous estimons à plus de 60% sur l'exercice. Alors aujourd'hui, TFF nous semble être bien entré depuis environ 9 mois dans un cycle vertueux qui offre une solide visibilité, et on a un cycle de création de valeur pour l'actionnaire qui nous paraît bien enclenché.
Eh bien, voilà quelques idées à avoir en tête sur ce titre TFF Group, hein, qu'on connaissait aussi sous le nom de Tonnellerie François Frères, qui ce matin, eh bien, cote 37,50€, en hausse de 2,74%. Et si on regarde le consensus des analystes qui suivent la valeur, eh bien, ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours moyen de 43,13€. Merci beaucoup, Pierrick. Pierrick Bochet, donc, InnoCap Gestion. Et cet éclairage ce matin sur TFF Group, le marché parisien, lui, progresse. Il gagne 0,48%, 6700 points tout rond.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Yvan Mamallet est en duplex avec nous depuis Société Générale CIB. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Merci d'être présent ce matin pour regarder notamment nos chiffres d'inflation. Alors, la synthèse européenne, on l'aura incessamment, mais on a déjà quelques indicateurs, notamment le chiffre français, etc. Qu'est-ce qu'on se dit, du coup, sur cette inflation européenne?
Alors, si on fait un petit retour en arrière, on peut voir qu'en fait, depuis à peu près un an, on a eu des chiffres qui ont quasi systématiquement surpris à la hausse. On est allé de record en record sur l'inflation dans la zone euro. Et les chiffres d'Espagne hier et d'Allemagne ont été soit meilleurs qu'attendus, c'est-à-dire plus faibles, soit en ligne avec les anticipations, mais surtout ont marqué une baisse, un repli de l'inflation dans ces deux pays. Ce matin en France, c'était plutôt en ligne avec les anticipations et surtout stable. Mais quelque part, ça montre, ça signale que les chiffres d'inflation qu'on aura d'ici peu devraient confirmer, si ce n'est le point haut, mais en tout cas qu'on s'approche vraiment du point haut de l'inflation. Alors, voilà, ça c'est pour les chiffres d'aujourd'hui. Je pense que pour les semaines, les mois à venir, pour voir qu'on a toujours un risque de voir les prix du pétrole, les prix du gaz réaugmenter, et donc qui pourraient pousser l'inflation et maintenir l'inflation élevée. Mais pour nous, à partir de début 2023, ce qu'on devrait avoir principalement, c'est des effets de base négatifs très forts. Alors les effets de base négatifs, c'est-à-dire que les prix du gaz, du pétrole augmenteront moins vite qu'ils n'avaient augmenté à la même période l'année d'avant. Et donc ces effets de base devraient permettre de pousser l'inflation assez fortement à la baisse à partir de début 2023. Alors, à la baisse, certes, mais on ne va pas revenir vers 2% très rapidement, ni même vers 4%.
Voilà donc effectivement quelques idées à avoir sur ces questions d'inflation. Maintenant, il y a aussi ce que ça nous dit de l'avenir, et notamment du travail des banques centrales. Comment est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur la base de travail que vous venez de nous donner, Yvan ?
Alors, je pense que pour les banques centrales, l'inflation totale, donc les chiffres dont on vient de parler, c'est l'important. Ce qui est la clé, c'est vraiment l'inflation sous-jacente. Et là, je pense que c'est plus inquiétant, parce que l'inflation sous-jacente, on est sur des rythmes de 5%, et on n'a pas le sentiment d'un ralentissement, d'un repli de l'inflation sous-jacente. Et en plus, il y a des risques provenant des salaires. Les salaires, c'est un indicateur retardé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de forte poussée de croissance des salaires, mais nous, on s'attend à des salaires qui seraient supérieurs à 4% en 2023-2024, alors qu'ils étaient entre 1,5% et 2% avant la crise du Covid. Donc, c'est pour la BCE, ce sont des indicateurs importants, inflation sous-jacente de salaire, qui vont continuer à suivre. Et pour nous, ça indique que clairement, on va vers vraisemblablement 50 points de base de hausse de taux en décembre, mais on devrait se rapprocher d'un taux directeur de l'ordre de 3% d'ici la mi-2023. Et le risque, il est, du point de vue des banques centrales, le risque, c'est qu'elles en fassent plus que ce qui est anticipé par les marchés à l'heure actuelle.
Si on fait un peu la synthèse, on peut peut-être se poser une question, c'est que ces choix de politique qui pèsent forcément un petit peu sur la conjoncture, sur la croissance, etc. Du coup, vous avez l'impression qu'on est condamné à la récession ou on peut encore y couper ?
Non, on pense qu'on peut encore y couper, effectivement. En fait, les chiffres récents ont été plutôt rassurants. Les indices de climat des affaires, les PMI la semaine dernière, l'IFO, l'INSEE, ont plutôt un sentiment qu'on a probablement touché le point bas. Vous regardez les chiffres en Allemagne, tout le monde attendait une récession. Au troisième trimestre, la croissance a été assez forte. Et en plus, la consommation des ménages a été très vigoureuse. Quand on regarde les bilans financiers des ménages, des entreprises, on a des bilans financiers qui sont plutôt favorables. Et donc tout ceci, ça veut dire qu'on peut peut-être résister effectivement à ce choc de taux d'intérêt et à ce choc de crise énergétique. Alors on va avoir une croissance plus faible, mais pas forcément une récession, et surtout pas une récession marquée selon nous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc, Yvan Mamallet depuis Société Générale CIB. Toutes ces questions d'inflation, de politique monétaire, de récession aussi seront au cœur de Regards Croisés tout à l'heure, peu après 11h. Bonne séance sur le marché, Yvan. Le CAC 40, pour le moment, qui reste en territoire positif. On progresse de 0,75% et on revient du même coup au-dessus des 6719 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO qui s'ouvre avec Barbara Kirali. Bonjour Barbara.
Bonjour
pour
Cédric.
Le moniteur. Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
Et Eric Tréguier qu'on attend. C'est voilà,
ce sont la chaise vide.
Les hasards des joies du métro parisien qui nous retardent. Eric qui va nous rejoindre dès qu'il le pourra. On va commencer donc tous les trois. Barbara, d'abord par un petit coup d'œil sur le contexte actuel, sur le marché, sur une forme de prise de température. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce marché immobilier alors qu'on... Voilà, il nous reste quelques semaines pour avoir terminé 2022.
Tous les voyants sont au rouge, si bien qu'il y a le Conseil national de la refondation du logement qui a été lancé cette année, enfin lundi, pardon.
Cette année.
On a des promoteurs immobiliers qui sont assez inquiets. 88 000 réservations globales sur 9 mois en 2022. C'est moins qu'en 2021 où ils avaient 112 000 réservations à cette même date. Et c'est surtout moins qu'en 2020. 88 000 réservations, presque 89 000. Et donc c'est assez étonnant parce qu'on nous dit toujours, depuis 2020, on nous dit toujours, surtout vous ne prenez pas 2020 comme année de référence parce que c'est une année cata. Et là, ils
amènent pire que l'année cata.
Ouais, voilà, on fait pire que l'année cata. Donc assez inquiétant, ce qui les inquiète.
Donc du coup, on vous recommande de prendre comme référence 2020.
2020, comme ça vous ferez mieux.
Ça sera moins pire que
en 2023.
2021.
Ce qui les inquiète, c'est la création d'un stock dur. Le stock dur, c'est cette capacité à construire, à livrer les logements, mais à ne pas les avoir vendus. Donc, ils gardent des logements livrés, ouais, prêts à être habités, mais pas vendus. Donc ça les inquiète fortement parce que ce n'est pas dans leur modèle économique, évidemment, de porter ces logements.
Les quelques résidus, d'ailleurs, sur une opération, c'est quasiment ce qui détermine... la marge de...
C'est qu'en fait, s'ils ne vendent pas...
Ça soit sur leur marge, ils gardent quelques...
Donc la marge moyenne, elle est à 6-7%. Ce que les promoteurs immobiliers disent, c'est que les établissements bancaires sont prêts à ce qu'ils baissent un petit peu leur marge et quand même à accepter de les financer. Alors que jusqu'à présent, la marge des promoteurs, c'était vraiment le sacro-saint à ne pas toucher parce que c'était le promoteur sur qui toutes les garanties pèsent quand même. Donc il reste là, du début du projet jusqu'à la fin. C'est lui qui assure la livraison du projet. Et du coup, les banques et les assureurs faisaient très attention à cette marge et à la capacité des promoteurs à livrer, en fait. Donc là, il y a les établissements bancaires qui commencent à se dire « Ok, on peut essayer de faire un peu baisser la marge. » Et pourquoi ? Parce qu'il faut faire baisser le prix de sortie. Parce que si les logements ne se vendent pas, c'est qu'ils sont trop chers. On atteint un plafond, en fait, de verre pour les acquéreurs. On est à 5514 euros du mètre carré en Île-de-France et 4886 euros du mètre carré en région. C'est une moyenne, évidemment. Mais la hausse, elle est de 8,4% sur un an. C'est énorme. En Île-de-France, ça recule de 0,9, on va dire de 1%. Donc on voit qu'on atteint quand même des sommets et que c'est plus finançable. Les acquéreurs, ils reculent de 22%, les particuliers acquéreurs reculent de 22% sur les acquisitions. Ceux qui reculent le plus fortement, c'est les institutionnels, les banques, les assurances.
Ils viennent à peine de faire leur retour.
Ouais. Ils repartent déjà, ils reculent de 54%. Donc c'est les institutionnels et les bailleurs sociaux qui n'ont plus les moyens d'acheter. On nous donnait un exemple sur l'Eurométropole de Strasbourg, la VEFA HLM, donc les logements sociaux construits par les promoteurs immobiliers qui sont achetés par les bailleurs. Le prix d'achat est capé à 2250 euros du mètre carré. Le coût de construction, il est à 1950 euros en ce moment du mètre carré. La charge foncière, elle est à 300 euros du mètre carré. Ça veut dire qu'on a atteint ce prix capé sur l'Eurométropole de Strasbourg. Les bailleurs ne peuvent pas acheter parce qu'en fait, les promoteurs leur disent « Moi, je ne vous vends pas, je ne fais pas le programme, je le révise à la baisse, je fais en sorte de ne pas avoir ce qu'on appelle la servitude sociale, de ne pas avoir de logement social. » Parce qu'en fait, le promoteur, là, il travaille à perte. Tout le reste, la commercialisation, la marge, c'est pour sa pomme. Et cette esprit morose. On le ressent aussi sur les ventes de maisons neuves. En 2022, Pôle Habitat de la FFB nous dit qu'il y aura 102 000 maisons qui seront vendues. On peut se dire, bon, bah, il reste quand même au-dessus du cap de 100 000. C'était quand même 139 600 en 2021. Donc, on voit que ça chute fortement parce que il y a l'inflation sur les matériaux, il y a l'inflation sur les prix de l'énergie. Tout ce temps et les prix de sortie explosent.
Mais c'est un vrai sujet. Alors après, les constructeurs de maisons, ils sont quand même, ils se disent, notre situation est pas bonne, mais elle est moins pire que celle des promoteurs, ce qui est une vérité. Mais pour autant, effectivement, ils sont tous dans cette même problématique.
Et pourquoi est-ce qu'ils disent qu'elle est moins pire que le collectif?
Parce qu'ils ont aussi la possibilité aussi de changer un peu leur fusil d'épaule. Typiquement, on voit, alors moi, c'est ce que j'ai vu, mais on en reparlera en fin de semaine au séminaire technique du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment. On voit qu'il y a une espèce de transition des métiers aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'appelle tout le monde, en fait, dit tous les représentants de cette Fédération du Bâtiment disent maintenant, il va falloir que vous élargissiez un tout petit peu le spectre. Typiquement, vous faisiez que de la maison neuve, faites de la réno. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des équilibres financiers à trouver pour les entreprises.
Ouais, mais pas tout à fait les mêmes métiers.
C'est pas exactement les mêmes métiers, mais il y a matière à se réinventer, à choisir une autre cible. Moi, il y avait un projet qui m'a beaucoup marqué, justement, dont on a parlé le week-end dernier, où on avait des constructeurs de chalets, de maisons ou d'appartements à la montagne et qui se voient là dans une situation où ces acheteurs n'ont plus les moyens, ils s'adressaient à une population, j'allais dire modeste, non, mais normale, à des acheteurs. Enfin voilà, et là aujourd'hui, ils se rendent compte que les seuls qui peuvent acheter aujourd'hui, c'est des populations aisées. Et donc du coup, ils ont réorienté aussi leur mode de construction. Et donc maintenant, ils proposent des chalets très jolis, aménagés intérieurement pour que ça puisse plaire à cette catégorie de la population. Donc ils arrivent.
On évoquait l'autre jour quelques produits trouvés dans différentes stations avec des trucs de folie quand même.
Oui.
Mais des surfaces qu'on ne connaissait pas en montagne,
mais bien 80 sûr.
Mètres carrés.
Mais
quelques.
Bien sûr, mais c'est parce que maintenant on se réadapte, c'est-à-dire que maintenant les entreprises du bâtiment au sens large sont obligées de s'adapter à la nouvelle donne économique et donc de se dire, bah, si moi je veux trouver un acheteur, je sais qu'il y en a certains qui ne peuvent plus obtenir leur crédit immobilier, bah, je vais aller vers ceux qui peuvent payer en cash et qui sont effectivement des populations très aisées, ce qui est un drame, hein. Mais quand on est chef d'entreprise, on peut comprendre qu'on a besoin effectivement de faire survivre son business et donc de s'adapter à la situation. Chose que peuvent plus difficilement, ils sont quand même beaucoup moins souples à ce niveau-là. Du côté des promoteurs, là, c'est plus compliqué.
En fait, le constructeur de maisons individuelles, lui, il peut monter en gamme. Alors, parce qu'il y a toujours cette appétence du français pour sa maison individuelle. Donc, c'est vrai que l'assiette, enfin, le marché est peut-être plus profond, en tout cas. Typiquement, Pôle Habitat dit
que c'est plus simple de faire sur un terrain qu'on a, où on avait prévu de faire 20 maisons, de n'en faire que 8, mais un peu plus cosy.
Exactement.
Et de les vendre.
Le prix des maisons, il a augmenté de 20 à 25%.
Quand on a un terrain qui a un immeuble, quoi.
Ben voilà, quand il y a un immeuble, il y a un immeuble. Surtout, en fait, le problème du promoteur immobilier, c'est qu'il achète le foncier. Il achète le foncier et du coup, il fait son bilan à rebours. En fonction du prix d'acquisition du foncier, il sait à combien il va pouvoir vendre son logement au mètre carré. Donc, il y a un moment, l'acheteur, il ne peut pas aller au-delà. Donc, et c'est difficile. Enfin, cette montée en gamme, elle est plus facile chez les constructeurs de maisons individuelles que chez les promoteurs immobiliers. Et autre chose aussi, c'est que les constructeurs de maisons individuelles, ils se positionnent sur la rénovation. Ils commencent à réorienter leur activité.
Ouais. Ils arrivent à avoir un business qui est quand même plus large.
Hein. Exaom, c'est le leader de la maison individuelle.
C'est l'ex-Maison France Confort.
C'est ex-Maison France Confort.
Je dis ça pour les boursiers.
En 2023, toutes les cellules de Exom, il y a 42 filiales. Toutes celles qui font que du neuf auront une cellule dédiée à la rénovation. Ils visent le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, je crois, ou 2025, on va dire. Et 30% du chiffre d'affaires sera réalisé par la rénovation. Donc, ils y croient vraiment. Aujourd'hui, c'est 13-14%. Donc, c'est vraiment une réorientation des recrutements en interne et de la formation de leurs équipes sur ce créneau-là.
Non, mais c'est vrai
les promoteurs commencent à s'y mettre, mais c'est plus difficile. On veut, à midi, il y a une information sous embargo. Il y a un des trois plus gros promoteurs immobiliers qui va annoncer une nouvelle filiale dédiée à la rénovation.
Imagine bien que sur du collectif, il faut mettre tout le monde d'accord, il faut voir avec un syndic.
C'est plus compliqué. C'est plus simple dans l'individuel. D'autant qu'en fait, il y a beaucoup de maisons individuelles qui ont été construites dans les années 70, 80, sur des grandes parcelles. modèle où on peut faire de la division parcellaire, de la densification. Enfin, vraiment, ça va être de la dentelle qui va être réalisée. Mais en tout cas, il y a moyen de vendre un petit bout de terrain pour financer l'extension de sa maison et du coup la rénovation de sa maison. Parce qu'évidemment, le ménage, il se lève pas le matin en disant je veux faire monter l'étiquette énergétique de ma maison en C alors que je suis en F aujourd'hui. Mmh. Il se dit je veux une pièce en plus et du coup, je vais en profiter pour améliorer la performance énergétique de ma maison. Et quand j'ai 1000 mètres carrés de terrain, ben, je peux en découper 400 et ça finance en fait les travaux. Donc les constructeurs de maisons individuelles, ils sont vraiment au milieu du guet et il faut qu'ils réorientent leur activité.
Ça veut dire aussi que tout le monde s'organise pour être sur ce marché de la rénovation et peut-être aussi attraper un peu des aides quoi, qui seront là pour ça. Hein.
Ah bah oui, oui, après il y aura toujours cette problématique derrière, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des artisans, des constructeurs qui réorientent leur business, tout ce que vous voulez, mais le fait est que derrière, il faut que le propriétaire puisse la financer. Enfin, la problématique, elle est là hein, toujours. Hein, et c'est d'ailleurs, à chaque fois qu'on s'adresse à des professionnels de l'immobilier, mais j'ai envie de dire au sens large, que ce soit sur le neuf, sur l'ancien, enfin, ils nous disent tous, là, en l'état, on ne pourra pas tenir les objectifs. Donc, oui, il y a des aides qui peuvent permettre de maintenir le business au sens large, là, en l'état, mais ça suffira pas. MaPrimeRénov, les certificats d'économie d'énergie, les aides locales, vous avez aussi beaucoup d'aides locales. Je vous conseille d'aller voir vraiment sur le site de Hiro, dont je vous ai parlé, ce site dont je vous ai parlé en début de semaine,
H2E.
Hier, H2ERO.
Mais c'était quand même en début de semaine.
Mais c'était mardi, du coup. Ça... Bon, bref. H2ERO, puisque eux vous permettent aussi d'y voir un tout petit peu plus clair sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais effectivement, c'est quand même un tel millefeuille. Et ça nous paraît tous, enfin, avec des restes à charge qui restent malgré les aides considérables, qu'effectivement, là, c'est le vrai curseur à bouger, en fait.
Si les grands s'y mettent, enfin, entre guillemets, est-ce que c'est pas aussi un point positif en se disant. On va aussi faire un peu le ménage sur les artisans pas tout à fait au point qui collaient du Clésestel avec de la colle Cléopatra sur les murs en espérant que ça tienne.
Pour avoir une vision macro de la rénovation énergétique, il faut aligner les acteurs économiques. Il faut que les gros s'y mettent, il faut que les industriels s'y mettent, qui sortent des produits facilement posables, qui forment les entreprises qui vont poser leurs produits high-tech, innovants. Il faut que ça s'aligne. Il faut donc. Cette massification, cet alignement des professionnels, ça va aussi faire baisser les prix de sortie à un moment donné, parce qu'on va industrialiser.
Aussi, c'est possible.
Voilà, donc positif. Il faut bosser sur les produits, sur la formation, sur l'industrialisation. Il faut aligner toutes les aides, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de regarder, mais si vous voulez faire financer une rénovation, parfois c'est plus intéressant de passer d'abord par MaPrimeRénov et ensuite par les C2E. D'autres fois, c'est les C2E, après c'est la prime rénov. Franchement, personne n'y comprend rien.
Bah, hier, Stéphane Descartiers était venu avec son dossier là. Il avait déforesté la moitié de l'Amazonie. Bon, écoutez, voilà, on marque une petite pause et puis j'ai une bonne nouvelle, Eric Tréguier s'est sorti du métro. Et donc il sera avec nous pour la deuxième mi-temps du Club Immo dans un instant, après un détour sur les marchés grâce à nos traders et la visite de Nicolas Dose. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Le marché parisien pour le moment toujours bien orienté, il progresse de quasiment 1%.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont devant leurs écrans pour lire pour vous la séance du jour, leur regard technique, le regard ce matin de Gilles Santacreux depuis boursicoté.com et celui, comme tous les jours, de Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. On commence avec vous, Gilles. Quand Bonjour. On regarde un petit peu la physionomie Bonjour. De l'indice, du vert depuis l'ouverture, mais pendant quoi, une heure, une tendance... assez monotone, et puis là, depuis une demi-heure, on va dire, le CAC cadence et grimpe, on est quasiment sur le pourcent de hausse, on peut aller plus haut, Gilles ?
Ah ben là, oui, clairement, puisque d'un point de vue technique, on était depuis le début de la semaine sur une rupture de la dynamique haussière que nous avions eue pendant tout le mois de novembre et qui nous porte depuis le début de l'automne. On avait cassé une oblique haussière donc sur cette tendance avec un gap qui avait été comblé, mais qui constituait tout de même un signal important puisqu'il s'agissait d'un gap de rupture. Donc suite à ce gap de rupture, on a eu deux séances où finalement la baisse est restée assez peu marquée. On est resté vraiment à des niveaux très très proche des plus hauts que nous avions eu en fin de semaine dernière. Et là, ce que l'on voit, c'est que on a une reprise de l'indice qui vient dépasser justement les points hauts que nous avons eu jeudi dernier. Donc clairement, on est sur une reprise haussière et les signaux de consolidation que nous avons eu en début de semaine sont en train d'être invalidés. Donc clairement, par rapport à la consolidation qu'on avait eue, elle était vraiment trop faible pour constituer un vrai signal de retournement. Et on souligne aujourd'hui la résilience du marché par rapport à certains problèmes. En fait, les problèmes de risque de baisse de la production en Chine sont totalement éclipsés par la macro qui va reprendre le dessus aujourd'hui, puisqu'on a un calendrier très fourni. On aura les ADP, donc pour les plus importants, les ADP, le PIB et une intervention de Jérôme Powell en fin de séance. Et donc, clairement, on a un marché qui, malgré les problèmes qui persistent en Chine, eh bien, sont en train de repartir à la hausse. Donc, on a un objectif qui est toujours à 6751 points. Donc, sur la rupture ici des 6730, c'est l'objectif que l'on peut viser pour aujourd'hui. Et en cas de cassure de cette zone horizontale qui constitue tout de même une zone horizontale majeure, on ouvrira des perspectives nettement plus hautes aux alentours des 6895 points. Le marché est vraiment sur une, il est vraiment porté par une forte tendance. Le signal que nous avons eu, alors qu'on a eu une très forte hausse donc depuis le mois d'octobre, en absence de consolidation, nous indique qu'il y a encore une très grande solidité pour soutenir justement cette tendance haussière. Donc clairement, l'alerte est totalement invalidée et on est sur une vraie reprise haussière actuellement. L'invalidation du gap est un signal qui se suffit à lui-même pour justifier justement cette possibilité de reprise et la force de cette tendance.
Jean-Louis Cussac, de votre côté, comment voyez-vous les choses? Jusqu'où peut-on éventuellement grimper si cette tendance qui se dessine depuis une demi-heure se poursuit?
Alors, moi, si vous voulez, je suis toujours à essayer d'acheter sur repli. Hier, je vous l'ai dit encore, on était au plus bas de la séance quand on s'est parlé, et j'ai dit, voilà, on n'a peut-être pas envie, mais j'achète. Et la différence que je vais avoir avec Gilles, c'est de dire que, pour moi, il n'y avait pas de rupture de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement, on était en consolidation haussière, et il y avait même pas de doute, si vous voulez, sur le plan technique. Tant des doutes psychologiques, oui, évidemment. Là, ce matin, c'est encore une histoire de fou. On part un peu à la baisse, entre 8h et puis 9h30, et puis tout d'un coup, on se met à monter. Quand on monte, on s'arrête plus. C'est incroyable. On est passé de... Moi, j'ai payé 83 ce matin. Mais vous savez, hier, j'avais payé 53. Le soir, j'ai même payé 61. Et on a rebondi. C'est systématique. Alors, on continue. Et là, maintenant... Ben, qu'on a fait 30 et quelques, on peut évidemment laisser porter dans la tendance. Sur le fond, il n'y a pas de changement. Et quel est le niveau d'achat intraday? Ben, ça pourrait être par exemple 703, mais maintenant, il faudra à nouveau payer au-dessus de 6703. Vous voyez, au-dessus de 6700, c'est pas simple, si vous voulez. Parce qu'après, quand on regarde les valeurs, il est difficile de trouver des relais potentiels, sauf sur des valeurs peut-être secondaires. Vous voyez, on voit Nacon qui démarre ce matin, qui déclenche un signal, mais c'est bon, voilà, elle est pas dans l'indice, bien sûr, c'est une toute petite valeur. Et sur les grosses, on continue, on est dans un train haussier et la plupart des valeurs, il y a longtemps qu'elles ont déclenché un signal. Donc trouver des relais techniques, c'est pas facile. Donc on va se contenter, si vous voulez,
d'accord,
d'essayer de trouver le niveau à partir duquel on passerait vendeur. Pour l'instant, c'est très éloigné. Un retracement, encore une fois, jusqu'à 6450 serait l'occasion de rentrer dans une perspective long terme. Donc, vous voyez, on n'a pas d'alerte à court terme. On n'a que des arrêts de situation, mais qui sont des arrêts au stand et ça redémarre. Donc là, on attend Jérôme Powell ce soir. À 11h, on attend CPI en Europe. Il y a des attentes optimistes. À chaque fois qu'on a des attentes, ces attentes sont optimistes. Alors bon, à un moment donné, c'est sûr, on fait des paris qui sont un peu hasardeux, mais le marché, en tout cas, donne raison, encore une fois, aux acheteurs. Mmh. Il y a toujours... au niveau du contextuel, au niveau des phénomènes endogènes, si vous voulez, des contraintes à l'achat. Donc tant qu'on aura ces contraintes à l'achat avec des opérateurs surprotégés, des gérants sous-investis, globalement, encore une fois, il y en a qui sont très bien placés, mais donc, si vous voulez, on est plutôt à freiner les baisses, en haut empêcher les baisses, et ça, c'est ce qu'on observe depuis des jours et des jours. Là où on aurait eu tous les signaux possibles pour retracer.
D'accord.
On n'a pas retracé.
Et bien
là,
voilà.
Sur la Chine, on anticipe même là quelque chose de très optimiste.
Voilà quelques idées graphiques et techniques, à la limite parfois du fondamental, signé par Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance. Merci à tous les deux. Le marché parisien en ce moment, donc, qui grimpe encore un petit peu plus. On progresse de 0,87% à 6727 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour. Emmanuel Macron est aux États-Unis. Quel enjeu pour cette visite?
Bon, il y a des enjeux mais géopolitiques, mais sur l'économie, c'est clairement de dire à Joe Biden, l'Europe reste l'allié éternel des États-Unis, mais vous ne pouvez pas continuer à vous moucher avec les règles du commerce mondial comme vous le faites en ce moment, à pratiquer un protectionnisme à outrance, une concurrence totalement déloyale. Tout ça remonte à l'été dernier. Les États-Unis ont toujours l'habitude de voter des lois comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui sont d'une efficacité redoutable. C'est une simple loi sous Obama qui met fin au secret bancaire, par exemple. Et alors là, ils ont décidé de mobiliser 370 milliards de dollars sur plusieurs années pour arroser tous azimuts de façon canadienne l'économie américaine. Le mot ne me vient pas. Enfin, ils ont absolument... je sais pas ce que je voulais dire.
Sans aucune limite.
Aucune limite, voilà. Bon, sans vergogne, en tout cas.
Sans vergogne.
Et d'ailleurs, ils viennent aussi d'annoncer qu'ils fermaient le marché américain aux équipementiers chinois. C'est-à-dire que Huawei, exit, ZTE, exit. Et aux États-Unis, qu'on s'appelle Obama, qu'on s'appelle Trump, qu'on s'appelle Biden, on s'embarrasse pas quand on veut faire du America First. Et même du America First XXL, comme on va le faire là. Ça me fait marrer quand on dit que l'Amérique est un pays libéral. C'est un pays protectionniste. Je reprends la fameuse formule de Lord Palmerston, qui était Premier ministre britannique. Hein. L'Angleterre n'a pas d'amis, pas d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts. Ben, vous remplacez Angleterre par États-Unis. Donc le problème devant lequel se trouvent Emmanuel Macron et les Européens est le suivant. Est-ce qu'on peut laisser l'Europe totalement ouverte dans une compétition mondiale qui ne l'est pas, et notamment du côté chinois et du côté américain? Est-ce que c'est tenable? La réponse est évidemment non.
Cette loi IRA...
Inflation Reduction Act.
Est-ce que c'est vraiment une menace pour l'Europe?
C'est juste déjà un mensonge sémantique anti-inflation, c'est une loi d'hypersubvention. Et bien sûr que c'est une menace pour l'Europe. L'élément le plus marquant, c'est l'histoire de l'aide d'État accordée par l'État fédéral aux Américains qui veulent acheter une voiture électrique. 7 500 $, c'est pas une paille quand même. Oui, mais uniquement sur des voitures électriques fabriquées sur le sol américain, par des ouvriers syndiqués, avec une batterie fabriquée sur le sol américain ou fabriquée à partir d'éléments qui viennent de pays amis, de pays partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette décision, vous sortez tout de suite à peu près 100% des constructeurs étrangers du territoire américain. Parce que les seuls qui ont des ouvriers syndiqués sont les constructeurs historiques aux États-Unis, dans le Michigan, où il y a des syndicats. Tous les constructeurs étrangers présents aux États-Unis sont dans des États du Sud où il n'y a pas de syndicats. Fini, terminé. Voilà. Vous prenez Hyundai, qui est la deuxième voiture électrique la plus vendue sur le sol américain. Hyundai n'a pas une usine sur le sol américain. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont plus vendre de voitures électriques. Vous avez aussi ceux qui assemblent leurs voitures en partie sur le sol américain, mais pas totalement sur le sol américain. Et puis vous avez certains modèles qui sont effectivement assemblés dans plusieurs pays. Voilà comment on évacue la concurrence avec une loi ouvertement protectionniste qu'on appelle anti-inflation, mais c'est de l'hypersubvention. Et l'autre sujet majeur, ce sont les prix de l'énergie. Aujourd'hui, les Américains sont en train de nous rincer avec un prix du gaz 3 à 4 fois supérieur à celui qui est pratiqué sur le sol américain. Donc, on commence à assister à des délocalisations énergétiques. On a un Suédois qui s'appelle Northvolt, qui devait construire une usine de batterie en Allemagne, terminée, projet abandonné, et études en cours pour savoir s'ils vont pas le ressusciter sur le sol américain. Les constructeurs aussi en Europe espère bien quand même continuer à rester sur cet immense marché. Et donc Volkswagen, là par exemple, qui est dans le Tennessee, alors peut-être, je sais pas s'ils vont réussir à mettre des syndicats, mais ils envoient des gages. Ils vont doper la production de SUV, investir 7 milliards de dollars sur le sol américain dans le Tennessee. Siemens, là, s'est lancé dans un projet offshore aux États-Unis de 30 gigawatts. Voici venu le temps des délocalisations énergétiques. C'est sûr que ça fait envie. On appâte avec ce type de mesures. mesure et on va assister à un nouveau phénomène de délocalisation. C'est une affaire très sérieuse.
Hein. Que peut faire l'Europe face à ces mesures?
La première chose déjà, c'est trouver une issue et assez rapidement sur comment est-ce qu'on réorganise le marché européen de l'énergie. Parce que pour l'instant, ça n'avance pas, c'est bloqué. Ensuite, on peut se plaindre devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. C'est sympathique, on sait que cet organe, ce tribunal de commerce, du commerce mondial ne fonctionne pas. Et puis, si on commence ça, on sait que la réponse est dans 5 ou 10 ans. On aura eu le temps de les voir partir, nos usines. Après, sinon, on s'entend pour apporter une réponse proportionnée, la réciprocité. On va faire comme les Américains, on va faire une préférence européenne pour les marchés publics qui seront accordés automatiquement à des entreprises européennes. Et Robert Habeck, le Bruno Le Maire allemand, a dit hier, écoutez, c'est pas compliqué, on va faire pareil. On va mettre aussi des tombereaux d'argent pour financer notre industrie. Il n'y a aucune raison de se laisser faire. Mais là, c'est l'escalade. Quand on commence ce genre de jeu, la loi du talion s'installe. Sinon, alors, on a aussi une solution qu'on a déjà vue en Europe. On ne fait rien du tout. On prône la concurrence merveilleuse et douce et le libre-échange parfait, puis on va tendre l'autre joue. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que toutes les périodes de protectionnisme dans l'histoire, de vrai, de dur, sont toujours mal terminées. C'est un frein à l'innovation, c'est un frein à l'efficacité, c'est un frein à la croissance. À la fin, c'est un accélérateur d'inflation et c'est le consommateur qui paie parce que tout, comme dans tout, il y a toujours quelqu'un qui paie à la fin.
Nicolas Dose et sa polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien est en hausse pour le moment. On va regarder tout de suite le détail de la séance avant de retrouver nos problématiques immobilières.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Un CAC 40 donc qui progresse, on a pour le moment touché le plus haut de la journée, on va voir si on arrive à redonner un petit peu de gaz, mais pour le moment, le CAC 40 reste ancré en territoire positif, il progresse de 0,54% à 6704 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire. Du côté des principaux arbitrages, dans le vert, on a du Renault pour 4,53% à 35,31, du Hermès, du LVMH et de l'Alstom, ferme la marche, Sanofi, moins 2,05% à 86,38, mais aussi Pernod, Danone et Carrefour. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0364.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO avec autour de la table donc Éric Tréguier. Bonjour Éric.
Bonjour Éric.
Merci d'avoir bravé les difficultés du métro parisien pour nous rejoindre. Barbara Kirali pour le moniteur.
Bonjour Éric.
Et Marie, vous avez entendu sa douce voix. On commence donc avec vous Éric et le retour du coworking.
Pourquoi
le retour, on l'avait enterré.
Vous vous souvenez quand même qu'il y a eu quelques petites difficultés. WeWork mettait un genou à terre en bourse il y a 3 ans, il y a un grand coup de frein sur les ouvertures de centres de coworking. Et là, on voit que ça revient très fort. Ça revient très fort. Le PDG d'IWG, le leader mondial du coworking, a déjà 130 centres en France et il en prévoit, pas pour lui, mais de manière générale, 1000 dans les mois qui viennent. C'est pas tout. Des conseils en immobilier comme Savills disent que ça va représenter à terme 20% du stock de l'ensemble des bureaux proposés à la vente et à la location. Et on comprend bien aussi que ça répond à un besoin et une envie des salariés. Il y avait 21% des salariés qui pratiquaient le travail en 2021. Ils pourraient monter à une trentaine, quarantaine de pourcents dans les années qui viennent.
Le télétravail. Oui, parce que vous avez dit le travail. On était un peu plus nombreux.
100% des salariés adorent le travail. et selon le baromètre des préférences des salariés du conseil en immobilier JLL, la semaine de travail idéale pour les Français travaillant dans les bureaux serait de 3,4 jours. Ça, c'est assez précis.
Arrondissons à 3.
Et 1,6 jours à distance. Donc, vous voyez, ça a quand même de beaux jours devant eux. Et les entreprises, pareil, elles sont passées de 20% à 46% à accorder du télétravail, avoir des accords, etc. Donc, tout est en train de se mettre en place.
De nouveau maintenant un argument de recrutement, je crois, le télétravail.
Exactement. Certains disent, je ne viens pas s'il n'y a pas au moins 2 jours de télétravail. Et du coup, il faut offrir des choses. Et là, on va parler par exemple d'un centre Wojo. Wojo, c'est une co-entreprise entre Accor et Bouygues. Et Wojo a un certain nombre de centres, 18 centres en France, dont plusieurs Mama Shelter, des centres de coworking Mama, ça s'appelle Mama Works. Hein. Et là, ils viennent d'ouvrir un grand centre dans les ateliers Gaîté. Ce qui est intéressant, c'est que l'atelier Gaîté, c'est un des chantiers du grand chantier de Montparnasse, qui est actuellement le plus gros chantier sur Paris, et un des plus gros chantiers en montant d'Île-de-France. La tour Montparnasse et puis aussi tout le quartier. Et là, donc, c'est un nouveau centre Wojo avec 13 000 mètres carrés, 1 600 postes, 41 salles de réunion, enfin tout ce qu'il faut. Et même une petite coloration écolo et responsable, puisque j'ai noté que les escaliers ont été réalisés avec du ciment ultra bas carbone de la jeune pousse Hoffman Green Technology, que Barbara connaît sans doute très bien.
Oui, c'est vrai. Oui,
on grande spécialiste du béton grande propre.
Du béton, pas forcément propre, mais en tout cas décarboné. Ouais, Hoffman, ils sont connus parce qu'ils ont trouvé un substitut au clinker. Le clinker, c'est le matériau qui est le plus carboné dans la constitution du béton. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Hoffman, je vous invite à venir demain au Parc des Princes parce qu'on a Bâtir sur le climat. Bâtir pour le climat, c'est un événement du Moniteur. Un événement transversal sur la réno, la rénovation, la décarbonation, le recyclage, avec des moments socles, des ateliers, il y a plein de parcours, c'est hyper dense, et il y a Hoffman Green qui intervient et qui présente justement sa solution.
Et donc vous allez poser des parpaings sur la pelouse
Non, on va poser des food trucks sur la
pelouse. Mais
si vous voulez
venir
sur la pelouse du Parc des Princes, c'est aussi possible pour...
Ils n'en ont pas besoin pendant quelques semaines, donc ça va.
Voilà, je vous invite à venir au Parc des Princes demain.
Bon, c'est noté sur l'agenda. Tiens, on reste avec vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, Barbara, le CNR Logement.
Le Conseil National de la Refondation dédié au logement. Et oui, ça a été lancé lundi par Olivier Klein, le ministre du Logement. Il y avait 160 professionnels qui étaient réunis à la Maison d'Architecture de l'Île-de-France. Donc, c'est à Gare de l'Est à Paris. J'y suis allée, franchement, en traînant des pieds, très dubitatif. Parce que y a des rapports qui sortent chaque année, qui sont menés par les parlementaires, par les professionnels, par les associations de locataires, les associations professionnelles également, sur pour essayer de résoudre la crise du logement. Et quand on compile toutes les solutions, on se dit que parmi toute la pléiade de solutions qu'on nous propose, il y a bien une bonne idée qui pourrait essayer de débloquer la situation. Et donc, on s'est dit au Moniteur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de CNR? Clairement, il y avait le CNR, il y a deux co-animateurs, Véronique Bédague, la patronne de Nexity, Christophe Robert, le patron de la Fondation Abbé Pierre, donc déjà grand écart, avec trois ateliers, un dédié au pouvoir d'habiter, donc évidemment tout le monde a envie d'avoir le pouvoir d'habiter où il veut, comme il veut, quand il veut, hein. Un autre sur renouer avec l'acte de construire et réconcilier les Français avec cet acte-là, et le troisième dédié à la transition écologique et énergétique, dans le logement, bien sûr, en faire le fer de lance. Donc, à chaque atelier, il y a des co-animateurs. Et très honnêtement, le matin, on avait un co-animateur dont je tairai le nom, qui nous disait qu'il ne savait pas trop quoi tirer de ce CNR logement. Donc, vous voyez, même les co-animateurs étaient un peu dans le même état d'esprit que nous.
Vous étiez plusieurs à traîner les pieds, quoi.
Ouais, je pense. Mais en même temps, ils se disent, c'est une porte ouverte. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Ne pas y aller, c'est aussi prendre le risque de ne pas se faire entendre. Donc, les professionnels se réunissent à nouveau. J'ai trouvé qu'il y avait des idées un petit peu nouvelles, ou en tout cas des idées qui anciennes, mais qui étaient à présent entendues. On a parlé prix foncier, on a parlé d'encadrement, et ça c'est Olivier Klein qui a lancé cette piste en disant il faut peut-être bosser sur le prix l'encadrement du prix du foncier. Il y a aussi une information une piste sur le partage de la valeur, et donc la révision de la fiscalité sur le foncier, la fiscalité sur les plus-values immobilières en résidence principale, ça ne va pas faire plaisir aux propriétaires, dont je fais partie, sur la fiscalité sur les résidences secondaires. Et il y a une autre idée qui était intéressante aussi, c'était bosser sur la donnée immobilière, parce qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié en début d'année qui disait que toutes les datas sur l'immobilier étaient... pas forcément justes, pour pas dire fausses.
Elles sont biaisées systématiquement.
Elles sont biaisées systématiquement, et donc du coup, peut-être qu'il serait temps de plancher sur comment est-ce qu'on fait remonter de la data pour pouvoir construire une politique du logement digne de ce nom. Et puis, il y a des professionnels qui en ont aussi profité pour prendre à partie les ministres qui étaient là. Il y avait le ministre Béchu, il y avait donc Olivier Klein, en leur disant, voilà, en fait, est-ce que vous avez une vision pour le logement, ou est-ce que votre vision, ça va être une agglomération de toutes nos bonnes idées? Parce qu'il serait temps qu'on le sache. D'autres idées aussi qui ont été lancées sur les maires. On fait beaucoup peser la responsabilité sur les maires et sur les Français, hein, qui, bien sûr, refusent l'acte de construire. Et puis, il y a quand même des pros qui leur ont dit, mais en fait, une somme de permis de construire accordée ne fait pas une politique du logement global. Enfin, il y a un moment donné, il faut avoir un État visionnaire. On sait que l'État ne peut pas tout, mais on veut un État stratège, on veut un État visionnaire. Et il serait temps que vous ayez cette vision et que vous nous la donniez.
Bon. Voilà. Barbara disait tout à l'heure, il y avait beaucoup de portes qui ont été ouvertes. Moi, je trouve que effectivement, il y a eu beaucoup de portes ouvertes. C'est-à-dire que
ça a fait beaucoup de vent, c'est ça.
Voilà. Elles étaient ouvertes avant, des idées qui sont sur la table depuis des années, une vieille soupe qu'on essaie de réactiver. Et puis derrière, on s'aperçoit d'une chose, c'est du manque de main forte. Du pouvoir politique.
Pas de vision,
tout le monde est d'accord qu'il y a des solutions, qu'il faudrait les appliquer. Il y a l'UIACA Faucon. Et puis derrière, il y a un pouvoir politique qui n'a pas de vision, Barbara a raison, et qui n'a pas de moyens. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens politiques de peser sur le gouvernement pour imposer des changements que tout le monde souhaite dans le secteur pour construire plus. Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'on est en train de faire réduire le marché locatif, notamment de manière mais très dangereuse.
Dramatique.
Et on sait très bien que c'est quelque chose qui va nous conduire à un problème social de première importance. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, personne ne fait rien parce que personne n'a la main. Il manque une main forte dans cette histoire.
Eh bien, c'est dit. Un petit mot aussi des SCPI.
Savez,
il nous reste 3 minutes et j'aimerais bien qu'on ait le temps de parler d'autres sujets, notamment de votre petite maison.
Dans la prairie.
Ouais. Donc, bon. Disons un petit mot des SCPI rapidement.
Alors, rapidement. Parce que c'est quand même un phénomène incroyable, l'attrait des Français pour les SCPI. Alors, la collecte, nous dit le site meilleurscpi.com, est en hausse de 50% au troisième trimestre. Pour une capitalisation totale qui est passée d'une soixantaine de milliards il y a quelques mois à 83 milliards aujourd'hui. Donc ça va à toute vitesse et y a un engouement certain et on comprend parce que quand on regarde les chiffres, le rendement, alors dans le vocabulaire des SCPI, on appelle ça le taux de distribution, est de 4,36 et il est même de 5,46 pour des SCPI spécialisés dans la logistique. Ça veut dire que c'est un des seuls placements qui permet de lutter contre l'inflation. C'est le seul aujourd'hui qui soit à peu près en phase avec l'inflation. Et quand on regarde sur le long terme, les SCPI ont toujours réussi à rapporter plus que l'inflation et à protéger le capital, ce qui n'est pas le cas de tous les autres placements. C'est pour ça.
Voilà donc pour cette question de SCPI. Et avant d'aller regarder la petite maison qu'a trouvée Eric, un petit mot d'Action Logement qui décarbone, Barbara.
Alors rapidement, ils décarbonent leur parc. Action Logement, c'est un peu plus de 1 million de logements, 70% qui sont chauffés au gaz et 30% à peu près, une trentaine de pourcents, un tiers, qui sont encore des passoires énergétiques. Donc leur idée, c'est de faire passer l'entièreté de leur parc en étiquette C à 2030. Ça veut dire qu'il faut intervenir sur 340 000 logements rénovés et de décarboner les vecteurs énergétiques des 70% de logements de leur parc, en passant soit par des réseaux de chaleur urbains, soit par la géothermie semi-profonde, soit par le développement d'énergie renouvelable en autoconsommation. Voilà, j'ai essayé d'être hyper rapide pour laisser de la place à la maison dans la prairie.
Bon, et alors donc vous avez déniché un coup de cœur à Paris. C'est ça, une maison de ville ?
Exactement.
Ah bah ça va être exactement. Encore inabordable. Merci.
On se dit, voilà, une maison, voilà. C'est
tout de suite
inabordable.
Le côté positif.
Marie, toujours positive.
Vous voulez pas dire une maison
là,
à Paris ?
Mais là, je vais vous parler de Paris, je vais vous parler du 5e arrondissement.
En
on est à deux pas de la Seine. On est près de l'Institut du Monde Arabe, dans un Paris qui est avec des petites rues, des arrière-cours. Et c'est dans une arrière-cour comme ça que je vous emmène. Une petite arrière-cour tranquille, dans une maison de 107 mètres carrés. Dans le quartier Saint-Victor, une maison avec une grande entrée, trois chambres, dont une suite parentale avec sa salle de bain. Et au premier niveau, un grand salon avec une cuisine ouverte, une salle à manger, salon, une buanderie, une toilette indépendante et une mezzanine bureau. La maison est exposée à l'ouest, bénéficie d'un ensoleillement permanent. En annexe, je vous livre
aussi. C'est ça, parce que c'est ce qui pouvait être redouté quand même, la lumière.
Oui, exactement. Et donc,
ça ressemble pas du tout à une maison quand même.
Tout ça, pardon, mais on est vraiment, vraiment dans une petite cour très tranquille avec un bâtiment qui est.
Si je peux plus pinailler, je suis désolée, mais
il fait 107 mètres carrés et 1,99 million d'euros. C'est vendu par Varenne et un réseau qui est très présent sur ce quartier.
Et c'est donc tout neuf, tout rénové.
Ah, c'est tout rénové, vous voyez.
Et l'étiquette ?
Alors l'étiquette, on n'en parle pas pour les maisons, voyons, soyez pas...
J'allais dire c'est coquet, mais à ce prix-là, ça peut...
Mais oui, mais je crois qu'elle a été rénovée récemment et donc elle a été rénovée dans les règles de l'art avec des vitres.
Donc on doit avoir une étiquette qui doit être pas mal.
Qui doit être pas mal.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc Barbara Kirali, le moniteur, Éric Tréguier, Challenge et Marie Cœur de Roy, comme chaque matin, qui nous accompagnent sur ces questions immobilières. On se retrouve dans un instant après une petite pause, un détour sur les marchés. Et puis vous n'oubliez pas les replays qui sur le site vous attendent ou sur vos plateformes préférées qui vous permettent de nous retrouver à tout moment. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.